Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble depuis le Centre Sèvres, l'Université des Jésuites de Paris, pour notre dernière rencontre des mardis d'éthique publique de l'année. Merci à tous ceux qui se sont déplacés, merci à ceux qui nous suivent sur YouTube, et évidemment, je n'oublie pas les auditeurs de RCF. Alors c'est presque un sujet de vacances qui nous attend ce soir, presque un sujet plage, avec cette question de maillot de bain, plus ou moins couvrant, voire pas du tout couvrant, mais il se pourrait qu'au-delà de ce bout de tissu synthétique, ce soit des questions beaucoup plus profondes qui se polarisent, ou plutôt que ces tenues de baignade aient un fort pouvoir de polémique, que certains se plaisent à agiter, et que ces textiles se révèlent hautement explosifs. Nouvelle pudeur et liberté du vêtement, c'est le joli titre trouvé pour cette soirée. C'est François Evé, jésuite, directeur de la revue Études, qui conclura nos échanges. Je vais laisser Jean-Luc Poutier, historien et organisateur de ces mardis d'éthique publique, ouvrir la séquence. Jean-Luc, tout est parti désormais de la célèbre piscine de Grenoble. Vous allez nous faire un bref rappel des faits pour nous permettre ensuite de prendre un peu de hauteur sans se noyer dans ces eaux pas toujours très claires.
En effet, le 16 mai dernier, le conseil municipal de Grenoble a adopté un nouveau règlement intérieur des piscines de la ville. Ce règlement autorise aussi bien les vêtements couvrants que les poitrines dénudées. Nous levons, je cite, les interdits vestimentaires, seules les règles d'hygiène et de sécurité comptent, s'est félicité le maire écologie Les Verts de Grenoble, Éric Piolle. Un jugement a priori frappé au coin du bon sens. À cela près que le vêtement couvrant, dit burkini, a été aussitôt jugé comme un signe religieux musulman, donc contraire à la laïcité, et que des procédures sont en cours pour faire annuler, ou pas, le vote du conseil municipal. Laissons de côté la question de la laïcité et soulignons que personne ne s'est interrogé sur l'éventuel symbole religieux que pourraient dissimuler des seins nus. Éric Piolle n'a pas évoqué la question de la décence. Elle est pourtant aussi au cœur du sujet. L'an passé, dans un entretien donné au magazine Elle, le 1er juillet, le président de la République Emmanuel Macron s'est dit hostile au port du crop top, ce t-shirt qui dévoile le nombril dans les établissements scolaires. À l'école, a-t-il affirmé, je suis plutôt tenue décente exigée, aussi bien pour les filles que pour les garçons. Tout ce qui vous renvoie à une identité, une volonté de choquer ou d'exister, n'a pas sa place à l'école. On peut tenir compte de la part de fantaisie d'un ado et tenir bon sur certains principes. Ce qui a valu à Emmanuel Macron une réplique cinglante de Jean-Luc Mélenchon. Alors, maintenant, nous avons deux penseurs de l'habillement féminin. L'ayatollah Khomeini suivi de l'ayatollah Khamenei et Monsieur Macron, s'est exclamé Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Macron qui décide de la longueur à partir de laquelle une jeune femme ou une jeune fille ou une fillette se comporte de manière décente ou non. Et la pudeur? Est-ce encore une notion en cours qui pourrait expliquer que certaines personnes, hommes ou femmes, ne souhaitent pas trop découvrir leur corps en public, fût-ce à la piscine, et pour des raisons religieuses ou pas? Entre liberté du vêtement, pudeur et décence, le débat de Grenoble, qui a oscillé entre le futile et l'artificiel, masque, comme souvent en pareil cas, une question beaucoup plus grave, qui est celle de la relation au corps des femmes et aux vêtements dans notre société. Il n'est sans doute pas possible de traiter une telle question en à peine une heure, mais il est sans doute utile de commencer à l'éclairer à la lumière de l'histoire, de la littérature et de la philosophie.
Et pour nous aider à éclairer ces questions, deux invités avec nous ce soir. Georges Vigarello, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes diplômé en éducation physique et dans une émission.
Vous savez beaucoup.
Voilà, où on va parler du rapport au corps, ça nous intéresse. Puis vous êtes surtout peut-être agrégé de philosophie et docteur en lettres. Vous avez travaillé beaucoup et vous travaillez encore sur l'histoire de l'hygiène, de la santé et des représentations du corps. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont une histoire de la robe et puis une histoire culturelle du Moyen-Âge à aujourd'hui et puis aussi une histoire du corps en 3 tomes publiés aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Autre invité dans cette émission, Camille de Villeneuve, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes docteur en philosophie, mais vous êtes aussi romancière. Votre dernier livre est un roman, ça s'appelle Rousseau, c'est publié chez Gallimard. Et puis vous travaillez beaucoup sur la question du féminisme Et entre autres, vous publiez de nombreux articles, dont certains sont publiés dans la revue Études, qu'on a cité précédemment, la revue des Jésuites, et entre autres un article sur MeToo et la galanterie à la française. C'était en mars 2019. Merci d'être avec nous ce soir. Georges Vigarello, je propose qu'on commence avec vous. Vous aussi, vous voulez revenir sur cette affaire de Grenoble pour nous aider à nous élever un petit
oui,
peu.
Oui, merci beaucoup. Je suis écouté, franchement, très sensible à votre invitation. C'est vrai que sur le coup, quand Jean-Luc Poutier s'est adressé à moi, j'ai un petit peu hésité, parce que j'avais le sentiment, à mon avis, à juste titre, qu'il y a des problèmes aujourd'hui sociaux qui sont sans doute plus importants, même si la question du burkini, nous le montrerons tout à l'heure, n'est pas une question totalement dérisoire, et Jean-Luc Poutier l'a très bien évoqué tout à l'heure aussi. Alors cela dit, j'ai accepté et je vais essayer de dire enfin pourquoi j'ai accepté, pourquoi cette question n'est quand même pas négligeable. Alors je voudrais, vous savez, pour des raisons de rapidité, m'en tenir à 10 points.
Pas plus.
Puis c'est un chiffre rond, je trouve ça sympathique, voilà. Alors le premier, c'est la définition du burkini. Je n'interviendrai pas beaucoup, même si je l'évoquerai, la question des seins nus. Je voudrais insister sur le burkini, parce que c'est vraiment ça qui est au cœur de la polémique. Alors le burkini, quand vous essayez de voir un peu la définition, c'est pas toujours quelque chose d'aussi précis, mais ça renvoie néanmoins à un vêtement qui recouvre le corps, qui est utilisé pour la baignade, qui est composé d'un pantalon, d'une tunique, d'un bonnet, parfois directement intégré à la tunique d'ailleurs. Il laisse le visage découvert, sinon on ne pourrait pas accepter, évidemment, parce qu'à ce moment-là, ce serait une dissimulation de la personne. Il est composé d'un tissu en lycra léger, donc théoriquement il serre le corps, ce qui peut d'ailleurs souligner les formes, ce qui n'est peut-être pas forcément attendu de ce genre de dispositif. Bref, il peut, résumons-nous, ressembler à une combinaison de surf ou de plongée. Bon, moi j'en suis là, je pense qu'on peut être plus précis dans la définition, mais c'est ce que j'ai à ma disposition. Deuxième point, puisqu'on est entre nous, je vais quand même vous dire le fond de ma pensée concernant ce vêtement. Je le déteste, c'est quand même curieux, je le déteste. Alors pourquoi ? Parce que j'adore voir les corps bronzés et je ne vois que du lycra. J'adore voir les cheveux au vent et je ne vois que des bonnets. J'adore voir les jambes féminines, je vous le cache pas, en particulier sur la plage, et je ne vois que des jupettes, de surcroît ridicules, parfois mal ajustées, c'est un appendice artificiel, il n'est pas toujours présent, surtout les burkinis d'ailleurs. Il est ajouté comme, un peu comme pour faire référence de manière totalement contre-productive à la mini-jupe, ce qui est très étonnant. Bref, cet ensemble, je ne vous le cache pas, je le trouve détestable. C'est un coffrage du corps qui fait finalement office d'artifice, et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il disparaisse, bon. Mais on voit à quel point il est en contradiction avec nos horizons du plaisir, des loisirs, etc. En plus, comble du comble, il fait référence à la religion, donc la religion sur les plages, c'est quand même curieux. Mais bref, donc ça, c'est ma position. Troisièmement, il y a eu des interdictions. Je me dis, oh là là, génial, j'aime pas ça, il y a des interdictions, c'est parfait. La première, c'est celle du, et elle a été évoquée rapidement par Jean-Luc tout à l'heure, c'est celle du 5 août 2016, pour interdire sur la plage du Villeneuve-Loubet, qui est un lieu que je connais bien, dans le sud, près de Nice, ce type de vêtements de plage, dit-on, entre guillemets. C'est Lionel Lucas, le maire Les Républicains, qui a pris cette décision. Arrêté municipal qui interdit l'accès aux plages, je lis, de la baignade à toute personne n'ayant pas une tenue correcte, ça renvoie à la pudeur évoquée précédemment, respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité. Je vous signale que dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, que j'ai détesté, je n'ai évoqué ni le problème de respecter, ni la tenue correcte. Non, je déteste parce que ça ne me plaît pas. Je continue. Respectueuse des bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les règles d'hygiène et de sécurité des baignades, apparemment, le burkini ne respecterait pas les règles d'hygiène et de sécurité. Une tenue de plage manifestant de manière ostentatoire une apparence, alors que la France et les lieux de culte religieux sont la cible d'attaques touristiques et de nature à créer des risques de troubles à l'ordre public. Je reprends ma respiration. Oui, cela dit, quatrième point, quand je pense à tout ça, je peux pas m'empêcher quand même de dire qu'il y a d'autres choses que je déteste dans les vêtements. En particulier, je ne supporte pas les jeans à trous. Je trouve ça affreux. Je ne supporte pas les ceintures, vous savez, qui descendent au-dessous de la taille, comme ça, avec les pantalons qui semblent ne pas tenir. Je trouve ça épouvantable. Et je trouve que c'est pire encore, évoqué tout à l'heure dans la condamnation d'Emmanuel Macron, pire encore, c'est le nombril qui émerge de l'habit porté par les adolescentes, c'est pas possible. Mais des chemises qui sont comme ça rehaussées, comment peut-on imaginer ce genre de tenue? Et puis je déteste évidemment, tout autant, les voiles, les jupes longues, les foulards qui entortillent le cou, etc. Bon. Simplement, quand je pense un peu plus à cette question, je pense qu'il faut arriver à faire une différence. Je ne veux pas du tout jouer le juriste ou le maître des positions théoriques et pratiques, mais quand j'y pense un peu plus, je trouve qu'il y a une différence entre le goût et le droit. C'est-à-dire que je peux parfaitement détester, et en même temps, c'est parfaitement possible. Je ne vois pas qui empêcherait aujourd'hui de porter un pantalon à trous. Vous voyez, on le voit aussi bien dans la rue, bref, dans les fameux espaces publics, dans la rue, dans le métro, au cinéma, etc. Et puis, je vois pas en quoi porter une croix sur la poitrine dans la rue, ça peut gêner quelqu'un. De même, je vois pas en quoi la soutane, etc., les voiles. Vous voyez, donc, quand on réfléchit à tout ça, on se rend compte qu'il y a une différence radicale entre ce que l'on déteste et ce qui est autorisé ou ce qui est interdit. Ça me paraît absolument fondamental. Cinquième point, ce que je viens de dire est assez bien évoqué par les premières réactions juridiques aux décisions des locales, des municipalités. Et la première, c'est celle de la Ligue des droits de l'homme en août 2016, donc très rapidement après la décision du maire de Villeneuve-Loubet, le maire de Nice et d'autres, Cannes, etc., ont pris la même position interdictrice. Patrice Spinozzi, qui dit des choses très intéressantes, il dit en août que cette décision concernant l'interdit du burkini, alors je le cite, vise spécifiquement un groupe de personnes en raison de leur religion. C'est pas la tenue, effectivement, qui est en cause, vous voyez. C'est ce qu'elle représente. Et ce qu'elle représente, c'est religieux, donc qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent manifester leur religion dans l'espace public? Ce qui revient, je continue à citer Patrice Spinozzi, exclure ce groupe de cette fraction de l'espace public en raison de critères religieux. Et il y a deux mots très importants, deux expressions très importantes, espace public et critères religieux. Alors en plus, le maire de Villeneuve-Loubet évoquait l'ordre public, il n'y a pas que l'espace public, évoquait l'ordre public. Et là, idem, Patrice Spinozzi dit des choses que je trouve tout à fait intéressantes. Le propos concernant le trouble à l'ordre public évoqué par l'arrêté municipal et par l'arrêté municipal, eh bien, revient, dit Maître Spinozzi, au maire de concilier l'exercice de ses pouvoirs de police avec le respect des libertés fondamentales, ce qui implique qu'il ne saurait interdire l'exercice d'une liberté alors que le maintien de l'ordre peut être assuré par les forces de police. C'est-à-dire que le burkini en question sur les plages n'a jamais effectivement été un objet de trouble à l'ordre public. Il n'y a pas eu de manifestation particulière, plus de violence, etc. Et si par hasard il y en avait, ce serait à la police à intervenir et pas à l'interdit de la municipalité. Alors, il y a une autre question que je trouve très importante et qui est très difficile. Elle porte sur le problème de l'espace, précisément. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'espace. L'espace public, c'est l'espace ouvert à tous. Mais il y en a d'autres où on peut comprendre, à mon avis, ce type d'interdit, c'est l'école. Vous voyez, c'est compliqué comme question. Et du coup, elle devient passionnante. C'est l'école. Effectivement, l'école, c'est difficile d'imaginer un lieu où viendraient s'imposer des repères qui ne sont pas ceux de la neutralité totale. De même, une autre question encore plus difficile, qui m'intéresse personnellement directement, même si je déteste les tenues en question, qui est encore plus difficile, c'est celle du sport. Il y a toute une dynamique de contestation concernant les tenues et la demande d'accepter des tenues couvrantes dans la pratique sportive. Alors aussitôt interviennent plusieurs types de problèmes. Est-ce que l'espace sportif doit être un espace neutre? Personnellement, j'aurais tendance à le penser parce que c'est pas un espace qui doit communiquer quelque chose qui est dans l'idéologie, qui est de l'ordre, de la position religieuse, etc. Et en même temps, se pose une autre question qui est pas forcément bien évoquée concernant le problème des piscines, le problème des plages, c'est le problème de l'hygiène. Autrement dit, et j'ajouterais même, puisque vous avez dit que j'étais diplômé d'éducation physique, ne m'en veuillez pas, j'ajouterais même une question technique. Est-ce que le fait de porter des vêtements couvrants permet une sorte de disponibilité de la technique sportive. J'aurais tendance à penser non. Donc à ce moment-là, vous voyez, il y a plusieurs objets de contestation possibles concernant l'espace du sport. À savoir, bon, la neutralité, mais la question d'hygiène, la transpiration, que sais-je, etc., l'ébullition du corps, bon bref. Et trois, la question technique. Vous n'avez pas la disponibilité physique lorsque vous avez le cou complètement entortillé, lorsque vous avez les cheveux retenus, voyez. Du coup, on voit bien comment se pose une question délicate qui est celle du lieu et la nécessité de différencier l'espace public ouvert à tous, l'espace qui a d'ailleurs été conquis par les femmes, ne l'oublions jamais, puisque vous me demandez de faire un petit peu de référence féminine. Michel Perrault est magnifique là-dessus, lorsqu'elle dit que la première grande conquête, c'est sortir, mais sortir dans l'espace public, avec une possibilité de disposer de soi. Mais les autres espaces sont-ils aussi ouverts que cela? Ils sont pas. C'est extrêmement compliqué. Bon, j'en viens à un sixième point, qui tranche. Conseil d'État, 26 août 2016, après les plaidoiries de Maître Spinozzi dont j'évoquais tout à l'heure, le Conseil d'État est absolument tranchant sur la fameuse, sur le même problème des plages de mai et juin 2016, où il dit qu'il y a une absence de risque, il n'y a pas de problème de trouble à l'ordre public. Et le maire de Villeneuve-Loubet dit, le Conseil d'État, 26 août 2016, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions interdisant l'accès à la plage, alors qu'elle ne repose ni sur des risques avérés de troubles de l'ordre public, ni par ailleurs sur des motifs d'hygiène et de décence. Cette décision me paraît absolument fondamentale. Au passage, je remercie d'ailleurs Sylvie Roch, qui m'a beaucoup aidé, qui fait partie du même labo que moi, qui est ici présente, qui m'a beaucoup aidé pour retrouver des références, etc. Alors, c'est sur ce type de décision que émerge l'affaire de Grenoble, évoquée tout à l'heure par Jean-Luc Poutier. 16 mai 2022, 6 ans après, le conseil municipal a deux voix de différence. Donc c'est pas un débat, vous voyez, c'est pas un truc léger, si vous voulez. Bon. Donc le conseil décide d'autoriser le port du burkini dans les piscines de Grenoble et avec un argumentaire selon lequel ce dispositif ne contredit pas la loi sur la laïcité de 1905, dans la mesure où l'espace est un espace public, et où, par ailleurs, rappelle le conseil municipal, le défenseur des droits Jacques Toubon et les arrêtés du Conseil d'État de 2016 avaient permis ce type d'autorisation. Huitième point, à nouveau, mouvement juridique, le préfet de l'Isère, dans une décision qui suit celle de la municipalité, demande l'interdiction, enfin demande de la condamnation, la suppression de cette décision, parce que, dit-il, le préfet en question, parce que cette autorisation déroge, je cite, à la règle générale d'obligation de porter des tenues ajustées près du corps pour permettre à certains usagers de s'affranchir de cette règle dans un but religieux. Citation. Et ces auteurs par là même, citation, ont gravement porté atteinte au principe de neutralité du service public. Et les mots sont extrêmement importants. Parce que moi, je parlais de l'espace public. La piscine, c'est un espace public. Ici, le mot de service public, oui, service, certes, mais il y a une distinction à faire. Certains sont responsables du service public, en particulier les autorités de la piscine, par exemple, ou les gestionnaires de la piscine, dont on peut attendre d'eux qu'ils manifestent de la neutralité, mais les usagers, c'est autre chose. C'est le fameux sortir de Michel Perrault, vous voyez. Donc, c'est quand même une position compliquée. Et cette décision du préfet, au fond, semble insister sur le fait que la laïcité est contestée, la laïcité est compromise, est contredite, en quelque sorte. Alors qu'une fois encore, dans l'espace public, vous pouvez porter les tenues, à condition de respecter, évidemment, une décence minimale. Bon, vous pouvez, et ça c'est pris en compte, c'est pas pris en compte. À ce sujet, et ça fait sans doute partie de la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes autour de ce sujet, les médias, après la réaction du préfet, suraccentuent ce type de problématique et de complications. Un des grands turiféraires des médias d'aujourd'hui, Mathieu Bock, coté aussi dans la télévision à CDI, eh bien, parce que, dit-il, cette décision porte sur un principe fondamental. Elle ne se contente pas d'une sorte de querelle portant sur les tenues. Elle comprend qu'à travers un symbole pour le burkini, c'est toute une idée de la société d'intégration qui est en jeu. Autrement dit, si vous autorisez cette tenue, vous permettez aux tenants d'une religion non seulement d'entrer facilement dans notre espace culturel, mais d'imposer leur point de vue. Alors évidemment, dans ce fameux débat concernant la décision du préfet et la réaction de la municipalité, puisqu'il y a eu quand même un jugement qui a été porté, mais l'avocat de la piscine dit des choses que je ne trouve pas inintéressantes. L'avocat de la piscine dit, mais si vous utilisez ce type d'argument qui est un argument culturel, ou qui est un argument qui porte sur la sécurité dont rien ne prouve qu'elle est remise en cause, si vous utilisez ce type d'argument, vous sortez. Je trouve la plaidoirie tout à fait intéressante. C'est Aude Evin, l'avocate de la municipalité, qui dit ces considérations sortent du droit. Tenons-nous-en au droit. De même, dit-elle, la neutralité s'impose aux agents du service public, mais pas aux usagers. Donc, la préfecture, dit-elle, et c'est très intéressant à mon avis, veut réécrire le principe de laïcité. Alors vous voyez que, personnellement, je suis totalement contre le burkini, je trouve ça ridicule. Mais en même temps, je suis tout à fait partisan de considérer qu'il n'y a pas de problème, que c'est pas que le droit peut l'autoriser. Alors j'en viens à un neuvième point. Réapprofondissons ensemble la réflexion. J'en viens à un neuvième point. Ce neuvième point, c'est le suivant. Moi, ce qui m'a passionné, figurez-vous, mais vraiment, très fortement, profondément, c'est l'histoire de la tenue dans l'horizon qui est le nôtre, l'horizon occidental. Or, qu'est-ce que je constate? Je constate que l'on n'a pas suffisamment souligné à quel point l'histoire même de la tenue féminine, c'est une histoire magnifique de l'affranchissement. C'est une histoire magnifique, ouais, c'est l'inverse du burkini, hein. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas le burkini. C'est l'inverse manifeste c'est la manifestation manifeste de l'affranchissement, et c'est une question absolument passionnante que j'essaie de traduire en quelques mots, puisque vous m'avez demandé de balbutier quelques indications historiques, ce que je vais faire. Si vous prenez la robe traditionnelle, vous voyez que, alors la robe étant d'ancien régime, hein, aussi bien, ne l'oublions pas, aussi bien chez les nobles que chez les prolétaires, cette robe, elle est constituée de trois types d'objets. Le premier, évidemment, c'est le visage, d'accord. Le deuxième, c'est le buste, et le troisième, c'est ce qui est au niveau des jambes. Et ces robes, elles sont très curieuses, on les a grandement oubliées, même si parfois elles résurgissent dans notre espace, ces robes partent à l'horizontale à partir de la ceinture. C'est-à-dire qu'elles rendent totalement anonyme le bas du corps, invisible. Et du coup, elles deviennent l'objet de spectacularisation, de type de tissu, et aussi parfois de décor. Je pense aux robes du 19e en particulier. Et puis vous avez le buste, qui lui est très serré, avec un corset, et qui fonctionne sous la forme d'un cône, dont les épaules sont la partie haute, et dont la ceinture est la partie la plus étroite, avec comme idée, parenthèse, contrairement à ce que l'on pense, à savoir la tolérance de l'empattement des femmes, de l'arrondissement, etc., avec comme idée, je finis ma parenthèse, de serrer la taille quasiment entre les mains. Donc la femme doit être légère, vulnérable, fragile. C'est pas du tout de la rondeur. Et je terminerai en disant qu'est-ce que ça représente? C'est magnifique comme image. Ça représente ce que je considère comme étant une fleur. C'est-à-dire que la femme, c'est un décor. La femme, c'est un décor. C'est pas quelqu'un qui entre dans la pratique quotidienne. C'est pas quelqu'un, bien sûr, si certaines travaillent, mais c'est pas quelqu'un qui doit travailler. C'est quelqu'un qui est là uniquement pour offrir quelque chose qui est lors du spectacle, et c'est une fleur. C'est le visage qui émerge comme ceux qui parachèvent, en quelque sorte, la tenue. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire, pour aller très vite? Révolution française. Regardez les tenues. Les robes tombent. Ils appellent ça tombe. Et vous avez dans les quelques, sont pas nombreuses, hein, dans les quelques revues de mode de ces époques 1790, vous avez enfin le pas s'est libéré. Enfin, la jambe peut venir toucher aux franges de la robe et de l'habit. Enfin, il y a quelque chose qui est dans la dynamique qui jusqu'ici nous était interdite. Très bien. Parfait. Et donc, revendication pour que la tenue puisse s'adapter aux positions de travail, etc. Oui, mais très vite, les révolutionnaires, 94, interdisent le travail féminin. Très vite, le droit civil donne une immense priorité au mari, jusqu'à tolérer implicitement, d'ailleurs, la possibilité de gestes relativement brutaux, entre guillemets, bon. Et que constate-t-on? Mais c'est passionnant comme question. On constate qu'à nouveau, la robe va reprendre la position hantée. C'est-à-dire que quand vous regardez les robes de la Restauration, 1830, vous voyez qu'aussitôt ça repart à l'horizontale, le corset redevient absolument banal. Mais, et c'est là que les choses deviennent fondamentales, qu'est-ce qui va se passer? À partir des années 30 jusqu'à la fin du 19e, c'est un combat. C'est un combat féminin. C'est un combat féminin pour que la tenue change, vous voyez? Et ça va être absolument insensible. George Sand, quelques autres qui vont porter des pantalons alors que le pantalon est interdit, une demande pour que le corset soit supprimé alors que les corsetiers ont un prestige considérable dans les années 50 du 19e. Et au fur et à mesure que les femmes entrent dans ce qui va s'appeler le tertiaire, secrétaire, enseignante, etc., au fur et à mesure, ben, la tenue va devenir difficile à tolérer cette position. Et donc vous avez pour la première fois, ce qui est complètement oublié aujourd'hui, hein, vous avez pour la première fois des sortes de mobilisations féminines dans les années 80-90 du 19e en demandant la suppression de ces tenues traditionnelles. Avec, alors, des entreprises qui sont quasiment contemporaines, si vous voulez, avec la tentative de joindre des journalistes, d'avoir avec des compagnons de route, si je peux dire, les médecins, etc., et finalement, ça va aboutir. C'est-à-dire que des couturiers comme Poiret et quelques autres vont supprimer le corset. Et puis ensuite, je veux pas continuer, mais vous avez la garçonne dans les années 20-30. Oh, c'est fini. C'est fini. Le chapeau disparaît, c'est une toque. Vous voyez, ça va dans le sens de la dynamique. Ça va dans le sens du mouvement. Ça va dans le sens de l'appartenance de soi. C'est ça qui est fondamental. Et c'est cela qui est la grande conquête de la tenue féminine au 19e et au 20e. Parce que le 20e, c'est bien plus. C'est le pantalon, c'est ce fameux jean que je déteste parce qu'il se trouve en bas de la taille, mais ça n'a, moi, ça n'a aucune importance, je m'en fous complètement. Vous voyez, je déteste, mais je suis bien obligé de tolérer. Et cette tolérance, c'est dans le sens d'une libération, c'est dans le sens d'une accentuation d'autonomie et du mouvement. C'est ça qu'on ne peut, c'est ça qui est fondamental et qu'il ne faut pas oublier. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle, bien entendu, les tenues couvrantes sont considérées comme un peu contestable, un peu difficile, un peu inacceptable, un peu archaïque. C'est des tenues qui renvoient à ce fameux pouvoir dont les femmes ont commencé à se défaire. Voyez, et en ça, on voit à quel point c'est central par rapport aux enjeux culturels. Alors, je ne veux pas être long, j'en viens à mon 10e point. Mon 10e point, c'est finalement, bon, cette municipalité, elle avait raison ou elle n'avait pas raison? Est-ce que ça valait la peine de réveiller tout ça? Voyez, en un sens, on peut dire oui. Mais je vous cache pas, vous comprenez bien comment je dis oui. Bon, mais en un sens, je vous cache pas qu'aujourd'hui, il y a quand même des problèmes plus urgents. Il y a quand même des problèmes, à mon avis, plus centraux, si vous voulez. Et l'écologie dont Piolle, le maire de Grenoble, est un grand propagandiste, elle nous entraînerait à des complications fabuleuses et indispensables. Limiter la consommation. À avoir des types de transports complètement révolutionnés, ne manger beaucoup moins de la viande, c'est ça qui est au cœur des questions d'aujourd'hui. Et le burkini, malheureusement, à mon avis, réveille de vieilles querelles qui ne sont pas du tout dérisoires. Je crois l'avoir montré, elles ne sont pas du tout dérisoires. Hein. Mais révèle les vieilles querelles, révèle les malentendus. Par exemple, c'est incroyable que le préfet Mais c'est incroyable que le préfet ne soit pas sensible à ce qu'est l'espace public et qu'il nous ramène des références sur je ne sais quelle définition de l'espace. C'est ridicule. Bon, donc ça réveille aussi ça. Mais au bout du compte, malgré ce réveil que je trouve personnellement salutaire, au bout du compte, je ne pense pas que ce réveil soit prioritaire. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie.
Merci beaucoup Georges Vigarello. Je vais vous donner la parole maintenant, Camille de Villeneuve. Vous aussi, votre éclairage sur cette affaire de Grenoble pour nous aider à nous en échapper, puisqu'on l'a bien compris, il y avait peut-être d'autres priorités, mais c'est quand même important d'y réfléchir.
Merci beaucoup Stéphanie et merci Georges pour cet exposé passionnant auquel je vais essayer d'apporter quelques ajouts très modestes. Alors, l'affaire du Burkini, alors moi je parlerai un peu plus de seins nus que du Burkini, il faut équilibrer un peu. Donc l'affaire du Burkini Monokini de Grenoble met en question l'apparition du corps dans l'espace public, on l'a déjà beaucoup dit, plus particulièrement du corps de la femme, du corps religieux et du corps féminin religieux. Alors d'abord, il est question de l'apparition du corps dans l'espace public, c'est-à-dire d'abord de la pudeur. Qu'est-ce qu'on peut cacher ou montrer au nom du civisme ou de la bienséance ? Alors cela ne concerne pas seulement le topless, comme Jean-Luc l'a rappelé tout à l'heure, le port du croc-top par les jeunes filles dans les établissements scolaires a suscité en son temps des débats étonnants qui sont régulièrement réactivés dans mon propre foyer. On observe dans les nouvelles générations une attention plus grande au corps comme siège de l'individualité, de la singularité, et qui engage une codification minutieuse des gestes et de la sensibilité. Bref, on observe chez les jeunes gens un questionnement moral en rupture, me semble-t-il, avec l'émancipation sexuelle et féminine des années 70. Et je voulais peut-être informer Georges du fait que le corset revient à la mode. Les jeunes filles se promènent. Alors, c'est avec des corsets qui se portent sur le t-shirt ou sur la chemise. Enfin, il y a toutes sortes de variétés stylistiques. Et en général, avec un petit ruban de dentelle noire au cou ou au poignet, voilà, pour bien souligner cette espèce de claustration générale du corps, de coffrage, comme vous l'avez appelé tout à l'heure. Alors, le mot pudeur s'était pourtant estompé au fil du temps, et dans les mœurs et dans la législation, du moins dans la qualification des actes portant atteinte à la pudeur. Pour plus d'objectivité, le législateur avait préféré qualifier la nature des actes, viol, harcèlement sexuel, exhibition sexuelle, plutôt que tenter d'évaluer l'atteinte à la personne, à sa dignité, ce qui était le cas avant lorsqu'on parlait d'attentat ou d'outrage à la pudeur. Or, on se rend compte que la pudeur, la honte, l'humiliation, tout ce lexique moral et religieux fait retour. Et par exemple, dans le sillage du mouvement MeToo. Même sans agression caractérisée, ce que racontent les femmes, c'est qu'il a été porté atteinte à leur pudeur. Ce ne sont d'ailleurs pas seulement les relations entre hommes et femmes qui sont en question, c'est toute une représentation du corps et de la sexualité, peut-être un retour du désir comme énigme au sein des plaisirs dont on pensait qu'il suffisait de les organiser, pour reprendre des catégories foucauldiennes. Alors, il est aussi question, dans cette affaire grenobloise, de l'apparition du corps de la femme. On sait qu'elle est dans certaines cultures plus problématique que celle de l'homme, car la femme est susceptible de mettre du désordre dans la parenté et la filiation. Nous connaissons bien la tentation anthropologique de suspendre la charge érotique de la femme, de la conserver pour le père et l'époux. Elle est à l'origine des codes vestimentaires auxquels la femme doit se conformer, notamment en islam. Mais le topless n'est pas encore entré dans les mœurs. Des gendarmes demandent régulièrement à des femmes de se rhabiller sur la plage et un certain féminisme s'engage contre cette tentation. Par exemple, celui de Camille Froidevaux-Métry qui tente à placer au cœur de la réflexion féministe le corps féminin et ses idiosyncrasies. Donc déjà, deuxième point de réflexion dans cette affaire, celui qui va concerner l'apparition du corps de la femme avec des approches qui se veulent féministes et qui sont contrastées. Alors, il est aussi question de l'apparition du corps religieux dans l'espace public. Cette question sociale est traitée spécifiquement en France du fait de notre conception de la laïcité. Celle-ci s'est pourtant considérablement allégée. je suis retournée lire pour préparer cette soirée. L'arrêté du maire du Kremlin-Bicêtre en 1900 interdisant le port de la soutane, il faut vraiment relire ce genre de texte. C'est passionnant pour l'histoire de notre société. Selon le maire, la soutane doit être interdite parce qu'il faut soumettre le clergé dont l'indiscipline est naturelle, qui est en trop grand nombre et dont les fonctions sont complètement inutiles au bien de l'État. Par ailleurs, le vêtement dont il s'affuble est ridicule et il ne convient pas que des fonctionnaires servent à amuser les passants. Alors, de cet allègement de la laïcité, la religion catholique a bénéficié. On peut aujourd'hui se promener librement en soutane ou avec un voile religieux. Est seulement requise la discrétion, soit la prise en compte d'un environnement et la capacité de discerner, de ne pas s'imposer aux yeux de tous comme unique foyer de sens. L'Église catholique française a une expertise en la matière et pourrait peut-être à ce titre s'exprimer. Dans notre affaire, il est enfin question du corps féminin religieux, donc de la femme voilée. Ce qui est ici en jeu, c'est l'inégalité entre les hommes et les femmes entretenue par certaines religions, et dont la religion catholique fait partie. Mais l'islam cristallise la méfiance du fait d'une islamophobie qu'il faut savoir nommer, qui a une histoire et qui touche jusqu'à la philosophie, et également du fait de la politisation de l'islam dans le monde. Derrière la femme en burkini, on voit rapidement, trop rapidement, l'organisation de la communauté musulmane, son financement, son prosélytisme anti-occidental et anti-libéral. Et c'est cette organisation qui est ciblée par la loi séparatisme d'août 2021 qui a permis au préfet de l'Isère de contester la décision du conseil municipal de la ville de Grenoble. Alors, après ce petit tour d'horizon, des différents foyers à partir desquels on peut réfléchir à cette question du burkini-monokini, je voudrais souligner deux points. Le premier concerne l'élaboration de la norme dans le règlement de la piscine de Grenoble. Alors, pour faire bref, je dirais que je suis entièrement d'accord avec Georges Vigarello lorsqu'il dit que il n'était pas urgent de statuer sur la présence ou non du burkini dans la piscine de Grenoble. Mais je voudrais souligner que le point de difficulté provient sans doute du texte et de la manière dont ces autorisations sont formulées. Je le répète, du topless et du burkini. Le deuxième point que je voudrais souligner concerne la représentation qu'on se fait de l'islam en France. Alors, premier point, le règlement censuré par le tribunal administratif de Grenoble autorise de facto le burkini et le topless, donc le règlement dont le conseil sur lequel s'est accordé le conseil municipal, ce qui est aussi une première, parce que le topless a été jusqu'à maintenant autorisé seulement dans les piscines de la ville de Göttingen, dans des conditions qui ne sont pas satisfaisante parce que le topless est autorisé uniquement le week-end du mois de mai au mois d'août pour ne pas choquer les usagers qui pourraient se trouver mal devant des seins nus de femmes. Bon. Donc on voit bien quelle fragmentation de l'espace public ce type de décision conduit. Cela me semble dommageable. Donc à première vue, on peut voir dans le face-à-face de la femme en burkini et de la femme topless une opposition presque risible entre deux féminismes. Un féminisme occidental dans sa version très récente, disons génitale, je reprends l'expression de Camille Froide-Vaumétry, je suis le propos, la conviction de ce féminisme qui insiste sur la nécessité de prendre en compte le corps féminin et son destin propre dans le discours féministe. Donc on aurait d'un côté ce féminisme qui serait en quelque sorte l'aboutissement de ce long processus de déshabillage de la femme dont Georges Vigarello vient de nous refaire l'histoire. Et puis en face, un féminisme anti-occidental, anti-colonialiste, porté par des femmes qui veulent avoir le droit, avoir la liberté, s'émanciper en portant le vêtement qui leur convient. Alors, il y a pourtant une convergence entre les deux autorisations données dans le texte du règlement de Grenoble, c'est que toutes deux sont signalées comme des exceptions à la règle. Le burkini est une exception à la règle de la piscine qui exige un vêtement moulant et près du corps, mais qui fait une exception pour les vêtements qui ne sont pas près du corps, mais qui sont au-dessus de la mi-cuisse, ce qui permet de valider le burkini. Et les seins nus sont une exception à la règle qui exige des usagers un comportement et une tenue décente et qui par ailleurs interdit la nudité. Donc chaque autorisation est en réalité une exception à une règle qui est formellement affirmée. Bien. Alors vous me direz, pour le topless, on peut estimer qu'une femme qui se promène seins nus n'est pas indécente et n'est pas nue. Bon. Et que cela dépend de la représentation sociale de la nudité et de la décence que nous avons. Bon, là, il faut se fier aux mœurs, hein, de toute évidence. Aller seins nus n'est pas encore entré dans les mœurs, en tout cas pas au centre Sèvres, si bien que les seins nus peuvent avoir encore une potentialité érotique, hein, j'en veux pour preuve les couvertures de magazines pornographiques, et une potentialité politique. Quels sont les derniers seins nus politiques dans l'histoire du féminisme? Ce sont ceux des fémènes et qui ont retourné cet attribut féminin et cet instrument également de soumission pour en faire eh bien une arme dirigée contre le patriarcat. Bon, donc les deux autorisations accordées par le règlement de Grenoble tiennent en fait de la même procédure dans la production de la norme, celle de l'exception non justifiée. Hein, car il y a bien des cas particuliers dans le droit, mais ils sont justifiés. Cela a des conséquences sur la représentation du sujet de droit, qui n'est plus celui qui s'oblige à la règle commune, mais celui qui peut la suspendre dans son intérêt propre et par là même en produire une autre. L'individu devient le foyer de la norme en se constituant comme une exception à la norme et il vide ainsi la loi de sa consistance. Elle n'est plus ce qui assure une cohésion dans l'obéissance, mais ce que je produis en m'acceptant de la norme commune, si bien que le corps social devient une série possiblement infinie d'exceptions à une loi vidée de sa substance. Donc il me semble que dans l'affaire du burkini-monokini, il ne s'agit pas tant d'un contraste entre modernité et archaïsme, pas du tout même, mais il s'agit, ce qui est en question, c'est la manière dont nous concevons la production de la loi, et le préfet, en répondant par la question de la neutralité du service public, est en effet à côté de la plaque. Alors, deuxième point, la question de la représentation de l'islam en France. Bon. D'un point de vue social, le port du burkini et le topless affirment un même projet, celui de l'émancipation des femmes. Il n'y a pas de raison d'accorder plus de crédit aux unes qu'aux autres. Le vêtement, comme la nudité, veulent être des signes de cette émancipation. Dans les sociétés occidentales, le corps est un texte, un ensemble de signes qui révèle le rapport qu'entretient l'individu à la société dans laquelle il vit et à lui-même. Il raconte une histoire singulière qui se veut unique, de même que le corps tatoué moderne ne dit plus l'appartenance à un système de signes, comme dans les sociétés traditionnelles, mais l'affirmation d'une histoire singulière, d'un récit propre. Donc le burkini est un vêtement moderne, très récemment créé par une styliste australienne, qu'adoptent les musulmanes qui veulent se rendre à la piscine, en manifestant à la fois leur appartenance à une société où on va se baigner à la piscine, ce qui est tout à fait moderne. Ma grand-mère n'est jamais allée à la piscine, ni à la plage. Elle trouvait ça absolument indécent et elle nous voyait partir avec nos maillots de bain comme si nous étions des filles tout à fait indignes. Donc ça manifeste à la fois voilà, cette appartenance à une société moderne qui encourage chacun à faire du sport, à nager, à entrer en relation, en contact avec l'eau, et l'affirmation d'une appartenance communautaire. Bien. Alors, c'est d'autant plus important à relever que les musulmans en France ont longtemps été indéchiffrables comme texte, puisqu'invisible est tenu à l'invisibilité. Il faut que la honte change de camp, ça c'est le slogan de MeToo, fréquemment entendu dans les manifestations féministes. C'est sans doute aussi l'un des sous-textes, même inconscients, de la demande de burkini, sous-texte anticolonial. On se souvient des cérémonies de dévoilement des années 59-60 en Algérie, qui furent, sinon des mascarades, de véritables attentats à la pudeur, mais aussi sous-texte hostile au féminisme dit occidental, qui a le tort, selon certains, d'imposer à toutes les femmes des valeurs et des représentations qui ne sont pas universelles. Donc il me semble que celles qui ne les acceptent pas peuvent dire, hein, par l'intermédiaire de ce vêtement, nous n'avons pas honte de n'être pas féministes comme vous. C'est sans doute pourquoi il faut à raison sanctionner l'opportunisme politique de la municipalité grenobloise. Car ce point de règlement ne fait en rien avancer la cause des femmes, ni celle des musulmanes, ni celle des amatrices de topless. Mais il révèle de manière caricaturale les sujets qu'on ne traite pas, celui de l'islam dans la société française, sinon sur un mode répressif dont témoigne la loi séparatisme, et celui des inégalités qui frappent encore les femmes. Alors, premier point, l'islam, ce sera mes deux dernières, j'en ai pour une minute. Premier point, du fait des vagues successives d'immigration, de la domination politique et culturelle qui s'est exercée sur la communauté musulmane pendant des décennies, du fait des échecs successifs des politiques d'intégration, du fait de la politisation mondiale de l'islam, du fait d'une islamophobie profonde qui dépasse le contexte récent des attentats terroristes, l'islam reste pour les Français un objet étranger et inquiétant, c'est un problème. Et deuxième point, l'émancipation des femmes rencontre de plein fouet la question morale, qu'en est-il de la pudeur après la libération sexuelle? Voilà pour mes petits ajouts.
Merci beaucoup Camille de Villeneuve. Alors, nous sommes toujours au Centre Sèvres, hein, et sur RCF pour cette soirée consacrée à ces nouveaux rapports à la pudeur et aux vêtements. Quelques questions à vous poser pour prolonger les débats. Peut-être Camille de Villeneuve, revenir sur le topless. Pourquoi finalement cela ne semble pas poser de problème, alors qu'on imagine bien que si un jour cela fonctionne à la piscine de Grenoble, les gens remarqueront peut-être plus les seins nus que les burkinis.
Oui, bah c'est très dommage parce que la municipalité a vraiment, à mon avis, fait une erreur en travaillant à ce nouveau règlement, parce que ça a lancé tout le monde sur la question de ce burkini, de ce vêtement islamique, sur la question du séparatisme, alors qu'il y avait quelque chose de très profond qui se jouait dans cette double décision, dans cette double autorisation, à mon avis.
Georges Garello.
Oui, moi je suis très sensible à ce qui vient d'être dit, hein. Je trouve que c'est absolument magnifique et c'est fondamental. Ce qui m'a frappé dans la question de Grenoble, c'est que la municipalité est confrontée à un militantisme. Cette association Alliance travaille depuis plusieurs années pour obtenir précisément le fait que le burkini soit toléré. Mais c'est vrai que, comment vous dire, la solution adoptée ne résout malheureusement pas le problème très important que représente la manière dont la culture française a du mal à se confronter avec le problème musulman, c'est clair. Et ça ne fait, d'ailleurs, à mon avis, l'erreur, c'est que ça ne fait qu'accentuer, vous voyez, la réaction du préfet qui est au fond, à mon avis, profondément malheureuse, mais qui est entraînée par des médias, etc., ça ne fait qu'accentuer. Donc c'est finalement dommageable. Je suis très sensible à la conclusion tout à l'heure.
Ramener le burkini à un simple morceau de tissu, à un simple vêtement de bain, est-ce que c'est pas faire preuve de naïveté et ne pas voir peut-être monter en puissance de certains courants dans l'islam, et particulièrement plus rigoristes?
Non, mais mon propos a été extrêmement prudent à ce sujet, parce que moi je considère que la laïcité, ça consiste à ne pas rentrer précisément dans ce type de piège. Et la réponse de l'avocate de la municipalité est parfaitement claire, respectez le droit, point. Vous voyez ? Et n'accentuons pas ce qui malheureusement est de l'ordre d'une mécompréhension et d'un avivement finalement des tensions intercommunautaires.
Camille de Villeneuve. Sur la naïveté
Je repensais, il y a un article passionnant d'Olivier Roy sur le sujet, qui dit que ce vêtement, en fait, du burkini est un vêtement tout à fait moderne dans la culture musulmane. Il dit que en réalité, les femmes qui sont soumises par les mâles qui les entourent à l'obligation de se soumettre à des codes vestimentaires ne porteraient jamais le burkini. Il y a des musulmanes elles-mêmes qui le trouvent très vulgaire, ce vêtement trop moulant, que la jupette en réalité souligne encore davantage les formes qu'elle ne les cache. D'ailleurs, la jupette, c'est un élément très important parce que c'est ce qui qualifie le burkini de vêtement ample dans le règlement de Grenoble. En fait, si on enlevait la jupette, je pense que ça tomberait le... Enfin bref. Ce que je voulais dire, c'est que le burkini, c'est un vêtement pour jeunes femmes qui ont envie de profiter de la vie moderne, d'aller à la piscine comme tout le monde. Et c'est enfin voilà.
Georges Vega.
Parce qu'effectivement, c'est très important cette question de finalement de qu'en est-il de l'apparence ? Pour prolonger un instant, lorsque les bains de mer ont commencé à avoir une présence dans la culture occidentale, chez les Anglais, les Français, etc., je pense à Dieppe en particulier, les tenues féminines étaient des tenues en robe. Aussitôt, 1000 critiques ont émergé. Pourquoi ? Parce que la femme qui se baigne avec une robe sort avec une robe qui colle à son propre corps. Et donc, du coup, les critiques disaient, vous voulez faire disparaître les formes, et bien au contraire, vous les faites apparaître encore davantage. Et c'est vrai que le burkini, par certains côtés, pourrait représenter ce type de questions, et la jupette est une façon de masquer, précisément, vous voyez, de ne pas favoriser la suraccentuation des formes. C'est comme ça, personnellement, que je peux l'expliquer, même si tout à l'heure, je la critiquais en disant qu'elle était mal ajustée, qu'elle était artificielle, etc. Mais elle a une raison, à mon avis.
Georges Lugarello, vous avez dit que vous détestiez le burkini.
Oui.
Alors, s'il ne faut pas l'interdire, comment le faire disparaître ?
Je ne comprends pas bien votre question.
Il ne faut pas interdire le burkini.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres façons de le
mais
faire disparaître ?
Mais pourquoi vous voulez le faire disparaître ?
Je ne sais pas, vous le détestiez.
Mais je le déteste, mais de la même manière que je déteste les jeans troués. Mais je ne cherche pas à faire disparaître les jeans troués. On est face à des questions compliquées parce que on parle, en termes de droit, de questions qui portent sur les mœurs et qui ne relèvent pas du droit. Et les mœurs, bah écoutez, elles sont comme ça, vous voyez. Et moi, je j'ai absolument pas l'intention de faire disparaître, ça me concerne pas. De la même façon que j'ai pas l'intention de faire disparaître, je sais pas comment vous dire, moi, les maquillages. Mais c'est très juste ce qui était sur les maquillages, hein. C'est des critères qui deviennent individuels par rapport aux critères collectifs précédents. Donc, les mœurs sont ce qu'elles sont.
Jean-Luc Poutier.
Oui, j'aimerais avoir votre avis à l'une et à l'autre sur un commentaire que j'ai lu dans Libération, je cite mes sources, qui disait qu'en fait, un des arguments qui avait été avancé pour le monokini, c'était une question de genre, qu'il fallait briser une inégalité entre hommes et femmes, et que les hommes pouvaient montrer leur torse, et qu'il n'y avait aucune raison que les femmes ne puissent pas le faire. C'est un argument qui aurait été avancé lors des débats sur le monokini.
Ami de Villeneuve.
Oui, c'est absolument passionnant. Mais ensuite, il y a les principes et puis il y a être dans la piscine face à des seins nus alors qu'on n'a pas l'habitude de se retrouver dans ce type de situation. Donc, ce qui est intéressant, c'est la différence entre la plage et la piscine. La piscine est un espace tout à fait différent de la plage. La plage où voilà, le topless, le burkini sont autorisés parce que la plage, c'est un peu la dernière frontière avant la sauvagerie, avant la grande wilderness. C'est vraiment les limites de la civilisation. Alors là, on peut se permettre des libertés qu'on ne peut pas se permettre dans l'espace public. Enfin, la plage est un espace tout à fait singulier, comme l'a dit tout à l'heure Georges. Donc, alors que dans une piscine, voilà, il y a, on y va pour faire un apprentissage, nager, pour s'entraîner, pour faire du sport, aussi pour pour le plaisir, mais le plaisir reste annexe.
Georges Ligarlot.
Oui, c'est vraiment une question très compliquée. Moi, j'ai défendu la piscine comme étant un espace public. Je reconnais volontiers que c'est un espace fermé. Je reconnais volontiers que ça renvoie à des repères subjectifs qui peuvent laisser apparaître cet espace comme étant un espace domestique. C'est vrai que le regard sur les corps, dans la mesure où l'espace est restreint, ce regard est beaucoup plus intense qu'il peut l'être ailleurs. Mais en même temps, à ma connaissance, ça demeure un espace public, si vous voulez. Voyez. Alors c'est vrai que personnellement, dans mon exposé, j'ai plus insisté. Et j'apprécie beaucoup ce qui a été dit tout à l'heure. Hein. J'ai beaucoup insisté sur le burkini et moins sur la question des seins nus. Et en revanche, ce qui me paraît très intéressant dans nos sociétés à nous, c'est qu'il y a progressivement une conquête de la peau. Vous voyez, il y a une progressive conquête de la peau. De même qu'il y a une autre conquête dont je n'ai pas parlé mais qui me paraît fondamentale. Et on voit émerger finalement le corps comme étant de plus en plus le symbole de la personne dans une société qui est individualiste et où donc chacun finalement suraccentue sa propre présence et qui est une présence corporelle. Ce qui est tout à fait intéressant de voir dans l'histoire du costume, c'est que autant traditionnellement le costume c'est un artifice qui vient donner une forme au corps, autant aujourd'hui c'est le corps qui impose la forme au costume. Et ça c'est une immense conquête, voyez. Mais c'est une conquête à laquelle s'associe le fait de laisser, en particulier dans les périodes de l'année qui le favorise, laisser apparaître la peau plus qu'elle n'apparaissait auparavant.
Et est-ce que l'on ne peut pas dire que topless comme burkini, tout ça est une question de mode et que comme toutes les modes, elles vont passer?
Moi, je dirais que c'est une question de mœurs. Et évidemment, les mœurs changent. Mais personnellement, je ne considère pas le droit de dire... aux mœurs, changer... vous voyez, je ne considère pas ce droit-là. Le droit, c'est une autre question. Est-ce que ça représente une menace? Est-ce que ça peut poser une perturbation dans l'espace public? C'est ça qui renvoie à la question du droit. Par exemple, je prends une question du droit. J'avais beaucoup travaillé, moi ça m'avait passionné, j'avais beaucoup travaillé sur la violence, en particulier la violence sexuelle. Et il y a une immense conquête du droit qui est la suivante. Autant traditionnellement, on condamne la sodomie. Sodomie, c'est un acte épouvantable, c'est la contradiction des sexes, c'est une horreur, etc. Et puis Montesquieu dit le premier, et il le dit d'une manière que je considère comme magistrale, mais s'il n'y a pas de désordre à l'espace public, si ça se passe à l'intérieur d'un espace qui est privé et qui est porté par un consentement de chacun, ça ne nous concerne pas. Ça menace pas le problème public, vous voyez. Donc c'est un des premiers à dire, mais si la sodomie se déroule dans un espace public avec un consentement, ça ne me concerne pas. Et les questions que nous venons d'évoquer, par certains côtés, ressemblent à celles-là.
Camille de Villeneuve, après ça. Vous voulez un dernier mot pour conclure? Camille de Villeneuve, est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour conclure cette conférence sur la question de la mode? Est-ce que c'est pas un effet de mode aussi? Georges Ligarello a parlé de mœurs.
Oui, bah, la pudeur a une histoire. Le topless était très fréquent dans les années 60-70. Aujourd'hui, beaucoup moins présent sur les plages. Donc en effet, il y a une évolution de ce type. Donc je pensais à ce que Georges vient de dire sur le fait que maintenant le corps donne sa forme aux vêtements, ce qui est très tout à fait juste et qui fait que le corps doit être beaucoup plus sculpté, travaillé par le sport, par l'exercice physique. C'est-à-dire, il y a en effet peut-être une émancipation dans ce mouvement-là. Mais qui engage, me semble-t-il, hein, un autre type de soumission à la performance physique, à la beauté du corps. Voilà, pour se promener seins nus, il faut avoir des beaux seins. Enfin, c'est pas si évident que ça.
On arrive à la fin de cette rencontre. Je vais demander, comme à chaque fois, à François Heuvé s'il veut bien conclure et synthétiser ce que nous avons entendu ce soir.
Ah non, ce ne sera pas une synthèse. Et encore moins une conclusion définitive. Nous avons fait la remarque qu'il y avait sans doute des sujets plus importants à aborder, en particulier en contexte de campagne électorale, que ce sujet de ce soir. Et pourtant, on voit bien que ça soulève, quand on tire sur ce fil, non pas ce fil de l'ICRA du burkini, mais quand on tire sur ce fil, on voit apparaître un ensemble de questions qui sont pour le coup très très sensibles. Bon, la question de la laïcité, un serpent de mer de notre société, la question du féminisme ou des féminismes, et Camille bien indiqué, ça sera un thème qu'on pourrait éventuellement aborder une autre fois. Du reste, ce va-et-vient entre les différentes écoles du féminisme, la question évidemment, la question du vêtement, la symbolique du vêtement aussi passionnante, la question que Georges Garaliot soulevait à la fin, la question de la peau qui apparaît, mais la peau dans les civilisations très anciennes, la peau était très visible, donc la peau a disparu, a réapparu. Enfin, est-ce que nous revenons finalement à l'Antiquité? On sait bien que les athlètes grecs s'exerçaient sans vêtements. Voilà, est-ce que nous revenons finalement à l'Antiquité grecque? La question du privé et du public. Vous voyez, beaucoup de questions sont soulevées par derrière, et cela nous donne peut-être un programme pour les mardis à venir.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à Camille de Villeneuve et à Georges Vigarello de nous avoir aidés à réfléchir sur ces questions.
Alors, c'est moi qui prends le relais maintenant, c'est pas fini, hein. Enfin, si vous êtes pressé. Mais nous avons encore une demi-heure de questions à peu près. Donc un micro va circuler dans l'assemblée. Voilà. Et donc vous levez la main, bien entendu. Et comme d'habitude, nous prenons deux ou trois questions. Voilà, il y a une main qui s'est levée. Déjà deux mains qui se sont levées sur ma gauche. Et une main sur ma droite. Voilà. Bon, alors on va commencer par la droite. Et nous passerons ensuite à gauche. Enfin, c'est relatif.
Merci pour cette soirée. Et je voudrais poser plus une question sur les droits individuels et communautaires par rapport aux droits collectifs de notre société politique. Comment, arbitrer, sur quels critères arbitrer les interactions entre droits privés que demandent de plus en plus de personnes ou de communautés, et les droits collectifs dans l'intérêt de tout le monde.
Merci. Alors ensuite, on passe de l'autre côté. Brigitte, s'il vous plaît.
Oui, merci. Moi, je suis assez troublée par toutes ces histoires, parce que je ne sais absolument pas trop quoi en penser, mais vous n'avez pas tellement parlé finalement du rapport homme-femme là-dedans et de la mixité, du problème de la mixité. Et moi, ce qui me trouble beaucoup, c'est d'entendre des jeunes femmes qui disent « Ah, bah, si dans la piscine il y avait des horaires réservés aux femmes, ça serait beaucoup mieux. Au moins, on n'aurait pas le regard des hommes. » Et d'ailleurs, la remarque de M. Vigarello sur les jambes qu'on voit mieux sans burkini qu'avec burkini, il y a beaucoup de femmes jeunes qui ne supporteraient pas ce genre de remarque. Donc, il y a aujourd'hui une espèce de refus de ce regard sexué des hommes qu'il faut aussi prendre en compte, alors au-delà du problème de religieux. Et puis aussi des jeunes femmes qui disent c'est embêtant parce que s'il y a des burkinis, ça veut dire que celles qui n'ont pas de burkini vont devoir supporter tous les regards des hommes. Voilà. Et voilà, je trouve qu'il y a aussi, par rapport à ce féminisme, comment est-ce qu'on peut avoir des lieux mixtes? Et comment est-ce qu'on peut... Enfin, il me semble qu'il y a une plus grande intolérance aujourd'hui à certains types de regards d'hommes, et ça pose aussi ce problème-là.
Merci. Alors, juste devant, oui, puis on s'arrêtera là.
Je voudrais juste commencer par un vécu un peu original. Il se trouve qu'on était allé au Yémen, voyage organisé, et à un moment, on était plusieurs filles à se baigner donc au Yémen sur la plage le soir. Il faisait encore jour, mais bon. Et donc, il n'y avait personne sur la plage, hein, pas une seule personne. Et nous, on était pas seins nus. Et tout d'un coup, on voit une tête qui émerge derrière la dune, puis une autre, et encore une autre. Et c'était stupéfiant. Et pour la première fois de ma vie, alors on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, il faut bien finir par sortir de l'eau. Et pour la première fois de ma vie, j'aurais bien aimé avoir un tissu pour m'emballer au bord de l'eau pour m'emballer à la sortie de la plage, parce que soutenir ces regards, je sais pas, ils étaient 15 à la fin, c'était stupéfiant, sachant qu'il n'y en avait aucun au début. Hein. Voilà. L'autre chose, il se trouve que je suis allée à une réunion il y a plusieurs années à l'ENS, qui était très spéciale, et c'était en théorie des féministes. Donc, du coup, ça m'intéressait. Donc, c'était des jeunes, y compris, il y en avait qui étaient censés défendre justement le voile pour certaines féministes. Donc, bon, on peut toujours les écouter. Et il se trouve qu'à un moment, il y en a une donc qui était voilée, qui a dit « Oh là, ah non, il ne faut pas que je dise ça, sinon je vais me faire lapider. » Donc, ça veut dire que intérieurement, elle a dit ça à voix haute devant tout le monde. Donc, intérieurement, elle a la notion d'être lapidée potentiellement, alors qu'elle avait quoi, 23 ans. L'autre chose, c'est à propos du danger dans les espaces publics. Moi, j'ai été très sensibilisée parce qu'il se trouve que au moment de la loi, là, enfin le scandale, pardon, pour le Burkini, moi j'étais au bord d'une plage et on a eu des échos de ce qui se passait en Corse. Et en Corse, justement, il y a eu danger avec des femmes qui ont été chassées sur certaines plages de Corse par, bon, c'est pas qui les a chassées. Donc là, il y avait un trouble véridique à l'ordre public. Et sinon, alors pourquoi est-ce qu'en Bretagne, ça pose pas de problème le Burkini? Est-ce que c'est les bigoudens qui étaient tellement cachés? Et pourquoi à Lille, on a accepté les horaires réservés aux femmes? Merci de nous parler des inégalités régionales. Merci.
Merci. Alors, droits individuels droits ou communautaires, droits collectifs, rapport homme-femme, parce que le regard sur les femmes, et puis différences régionales. Qui commence? Qui s'approprie la question?
Le micro. Je ne vais pas m'excuser sur le fait de dire que l'émergence des jambes me paraît positive. Je ne vais pas me perdre là-dedans. Ce serait. Mais vous savez, on peut dire exactement les mêmes remarques. Moi, j'aime bien les corps musclés des hommes. Je ne vois pas du tout. Il y avait absolument aucun sous-entendu dans mon propos. En revanche, ce qui me paraît très important, effectivement, c'est la différence dans cette affaire sur du regard homme-femme. Et je trouve que on oublie très fortement que le corps féminin se revendique autrement aujourd'hui. Beau sexe, terme de la tradition, veut dire que la première qualité d'un corps féminin, c'est la beauté. Il n'en est plus du tout question aujourd'hui, c'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est la diversité des qualités des corps. Et la possibilité, par exemple, de travailler, ou l'appartenance de telle ou telle autre qualité. J'avais beaucoup aimé cette phrase de Michel Tournier qui disait aujourd'hui, quelqu'un comme Florence Artaud, elle manifeste de la résistance, qui était une qualité considérée comme dominante chez l'homme. La lanceuse de poids manifeste de la force, etc. C'est ça qui me paraît très important. C'est-à-dire qu'il y a une diversification fondamentale des qualités des corps aujourd'hui. Et ces qualités concernant la femme ne relèvent absolument plus seulement de la beauté. D'ailleurs, remarquez dans les rues, c'est très intéressant dans la rue, c'est que il y a une sorte de volonté de ne pas apparaître dans la tenue féminine comme étant une tenue faisant triompher quelque chose qui est dans de l'esthétique. Vous voyez? C'est une tenue tonique, c'est une tenue mobile, etc. C'est ça qui a changé. Et ça me paraît très important. Mais de la même manière, qu'est-ce qui a changé concernant la tenue masculine? C'est qu'elle peut aussi, du coup, être une tenue séductrice. Vous voyez? Il faut pas oublier, je crois, aujourd'hui, cette diversification qui fait que, par exemple, traditionnellement, sur la plage, c'est uniquement l'esthétique et la beauté qui l'emporte. Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. C'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus diversifié. Et du coup, ça donne le sentiment qu'il y a beaucoup plus de possibles, beaucoup plus de disponibilité de chacun, voyez, vis-à-vis de sa propre, au fond, ressource physique. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur hommes et femmes.
Camille, tu as cette question?
Ouais, je suis très sensible à ce développement. Je trouve ça très juste. Je reviendrai juste sur ce trait hein, du féminisme contemporain, le refus du regard sexué des hommes. Ça me semble très juste, en effet. Et c'est ce qui lie à nouveau hein, le féminisme, disons, occidental contemporain dont je parlais tout à l'heure. Et puis le féminisme porté par ces femmes musulmanes qui revendique le burkini, c'est-à-dire que D'une part, il y a un féminisme occidental qui s'oppose à la fois à la femme bourgeoise, victorienne, cadenassée du 19e siècle. Femme musulmane qui s'oppose au corps hyper sexualisé dans la culture populaire, dans les clips de R&B, de rap, etc. C'est-à-dire que il me semble qu'il y a là une congruence des féminismes contre la femme objet sexuel.
Sur la question droit individuel, droit collectif, peut-être Georges Bigardeau, oui.
Je veux bien dire un mot, me risquer, parce que c'est effectivement un sujet extrêmement difficile, complexe, et je ne suis pas juriste, je pense que vous vous en doutez. Néanmoins, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire que le problème, c'est bien entendu la question du désordre dans l'espace public, et c'est éventuellement la violence dont ce désordre peut être parfois porteur. Et là, c'est le droit qui intervient, bien entendu. Mais dans d'autres cas, ça peut ne pas être le droit. Ça peut être simplement le fait qu'interviennent des autorités qui interdisent tel et tel type de comportement. On peut très bien imaginer, je ne sais pas, en Corse, ce qui était évoqué tout à l'heure de façon parfaitement légitime, on peut parfaitement imaginer qu'en Corse, des responsables de plage viennent instaurer de l'ordre. Mais c'est pas a priori le port du burkini qui est lui-même facteur, voyez-vous, c'est plutôt le regard. Je renvoie à ce que disait Camille tout à l'heure, c'est un problème de culture, de la manière dont le milieu accepte ces mœurs qui sont autres, c'est plutôt ça. Et donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce qui me paraît absolument central, ouais, c'est la menace qui porte sur l'espace public, et c'est effectivement là que l'intervention est incontournable, indispensable.
Merci. Reprenons une série de questions. Alors, juste derrière. Les Bretonnes, oui, pardon. Nous avons oublié les Bretonnes. Camille, tu as une...
Moi, regard. J'adore les Bretonnes, voilà.
Je ne connais pas du tout la Bretagne, moi je veux parler des Basques, si vous voulez.
Différence culturelle nous laisse... Bon.
Mais non, mais les différences culturelles sont fondamentales. Et elles doivent être, lorsqu'elles ne menacent personne, elles doivent être tolérées. Je ne vois pas comment avoir une autre position que celle-là.
Mais plutôt que de parler de région, on pourrait parler de pays ou de nations. Enfin, ceux qui allaient dans les années 60 en Espagne pour y passer leurs vacances, les femmes qui portaient des bikinis, se faisait rappeler à l'ordre par les carabiniers, parce que c'était par la Guardia Civile, pardon, les carabiniers c'est en Italie, parce que c'est interdit. Bon. En Italie, la Corse est proche de l'Italie. En Italie, il y a eu, dans les années 90, une extraordinaire explosion de la sexualisation des corps des femmes publiquement. La télévision berlusconienne a mis en évidence, on leur donnait un nom particulier d'ailleurs, toutes ces femmes qui étaient un peu de l'ordre des couvertures de magazines que Camille évoquait tout à l'heure. Okay. Et le mouvement féministe italien très fort dans les années 1970 ne s'est réveillé qu'au milieu des années 2010. Hein, puisque les premières manifestations féministes contre Berlusconi datent de 2010-2011, alors que dans les années 70, les Case delle Donne et en Italie, c'était un mouvement extrêmement puissant. Hein. Mmh. Donc, je partage tout à fait ce que Georges dit sur la question des mœurs. C'est des mœurs qui peuvent être régionales, c'est des mœurs aussi qui tiennent à une culture nationale, sur la question du port du vêtement, sur la question du corps, peut changer très vite. Enfin, moi, ayant vécu en Italie à la fin des années 70, lorsque vous vous trouviez Corso Vittorio face à une manifestation féministe, un homme, il valait mieux vous écarter. Hein, parce que vous pouviez être entouré, on se mettait à danser autour de vous et à vous tenir des propos désobligeants. Et c'était très désagréable. Et la même société, 15 ans plus tard, faisait présenter les actualités télévisées par des femmes au corps complètement découvert. Hein, on les appelait les vélines. Voilà, et le féminisme n'est réapparu que au début des années 2010. Donc la question des mœurs me semble extrêmement déterminante.
Alors, reprenons les questions. Oui.
Oui, je me suis demandé, vu le titre de la soirée, si l'argument de la pudeur avait été invoqué en fait dans les arrêts qui ont été donnés ou dans les discussions. Parce que je me demande s'il n'y a pas une richesse dans cette notion de pudeur qui serait une manière de manifester la dignité par le corps en soustrayant telle ou telle partie à l'apparence ou au contraire, il me semble dans ce qui a été dit, l'argument de la décence est complètement absent, c'est-à-dire en tant que régulation des mœurs et qui concerne là le corps. Mais je me demandais si finalement cette notion de pudeur, moi, qui me paraît très riche, en fait ici à faire revenir, pas dans le sens de la pudibonderie, mais vraiment de ce qui par le corps permet de revendiquer une dignité. Mais je ne sais pas si c'est venu dans les arguments.
Merci. Alors, d'autres mains, ouais, dans le fond. Ah oui, parce qu'on dans le fond, après. Ah bah, il y a encore une troisième main dans le fond.
Je voulais revenir au point de vue homme-femme. Je voudrais savoir si cette demande du burkini, c'est une demande des femmes ou une demande des hommes.
Mmh. Merci. Et puis, dans le fond.
Si, une question a été posée tout à l'heure sur la fragmentation de l'espace public avec ces remarques de jeunes femmes qui se disent mais finalement ce serait peut-être mieux qu'on ait des horaires aménagés pour les femmes. Camille de Villeneuve a parlé de deux féminismes qui se rencontrent dans cet arrêté municipal. Moi j'aimerais poser une question sur le face-à-face de ces femmes en topless et ces femmes en burkini. Ça interroge quand même la désapprobation mutuelle, des options civilisationnelles contraires qui sont autorisées. À titre d'exception, vous nous avez rappelé, Camille, alors on part d'une situation où tout le monde est invité à souscrire à une norme commune, à un régime d'exception où ce sont des choix contraires qui sont invités à se confronter dans un même espace. Est-ce que c'est pas signe d'une fragmentation beaucoup plus conséquente de ce que nous avons en commun.
Voilà, merci. On va rester là pour cette série. Donc, pudeur, dignité par le corps, demande des femmes ou demande des hommes, et puis ce face-à-face de féminisme, en quelque sorte. Alors.
Je veux bien commencer parce que je me suis intéressée justement à la circulation de ce terme de pudeur à travers les textes. Bon, c'est une petite recherche que j'ai faite, donc elle est certainement pas exhaustive. Mais ce qui est manifeste, c'est la disparition du terme dans l'évolution des textes. Et puis, le terme de pudeur n'apparaît absolument pas dans le règlement de Grenoble, ni dans la réponse du préfet, ni dans la décision finale du tribunal administratif. Hein. Donc c'est vraiment la décence qui apparaît, tu vois, ce terme de décence. Voilà, il faut avoir une tenue décente. Et décence veut dire pas de nudité. Voilà. Mais en effet, j'ai trouvé que cet oubli, qui est tout à fait compréhensible, hein, le but étant vraiment d'objectiver les actes, de pouvoir les caractériser d'une manière un peu plus objective qu'il a été porté atteinte à ma pudeur. Donc cet oubli de ce terme, eh bien voilà, revient aujourd'hui, nous invite à aller plus avant dans la réflexion. Voilà. Et puis, vraiment, ce terme apparaissant dans les récits des femmes témoignant dans le sillage de MeToo, hein, cette question de la pudeur m'a aussi intéressée. Tiens, et au fond, il est question de ça également. Le deuxième point...
Je me permets juste de dire quelque chose sur la pudeur, c'est qu'elle réapparaît dans le discours des boutiques qui commercialisent les burkinis, puisqu'ils parlent de mode pudique. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mmh.
Oui, absolument. Ouais. Alors, le deuxième point, c'est sur le burkini. Bon, le burkini en France en tout cas. Ensuite, on n'entre pas dans les foyers, on peut pas répondre à cette question de manière réellement précise, hein, mais en tout cas, la demande du burkini, elle est portée par une association de femmes musulmanes, hein, donc pas du tout par des hommes, qui demande ainsi la possibilité d'aller dans les piscines en respectant leur religion. Voilà. Donc c'est une demande qui vient des femmes. Le troisième point sur le face-à-face. Oui, mais ça, sans doute dans la décision du conseil municipal, il y a cette utopie d'un espace partagé par des femmes topless et des femmes en burkini. Mais ce serait magnifique. Moi, je trouve que ça serait extraordinaire qu'elles se parlent, hein, et je suis sûre qu'elles ont beaucoup de choses à se dire. Donc.
Georges Vigarello, vous avez des points à ajouter sur ces...
Non, mais c'est la question homme-femme, c'est une question effectivement tout à fait passionnante, parce que le sous-entendu de votre question, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est le suivant, le voile est imposé par une culture qui serait plutôt liée à une dominance masculine. Le problème, et ça a été très bien montré par Camille, c'est que vous avez aujourd'hui un militantisme, je l'évoquais tout à l'heure aussi, il y a un militantisme très fort de cette fameuse association Alliance, qui considère que le fait d'entrer dans une piscine avec un burkini, c'est une victoire. C'est une façon d'affirmer son appartenance et de l'affirmer de manière qui est d'ailleurs porteuse à leurs yeux d'une certaine élégance, d'une certaine facilité. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que c'est compliqué de dire oui, c'est les hommes. C'est beaucoup plus, à mon avis, souterrain. Je n'oserais pas dire sournois, mais en tout cas beaucoup plus souterrain. Mais il y a une question que je trouve très intéressante. Je ne voudrais pas déplacer le problème. Je reviens quand même au problème des mœurs et du droit. Moi, je m'étais beaucoup intéressé à cette question quand j'avais travaillé sur le viol. Et j'avais constaté, par exemple, que les mœurs, prenons le cas du début du 19e siècle, hein. Bon, les mœurs, dans une certaine mesure, tolèrent une ascendance de l'adulte sur l'enfant, et donc un certain abus, c'est pas trop condamné, il y a pas de mots, il y a pas, ça n'existe pas, l'agression sexuelle sur un enfant, il y a que le mot de viol, vous voyez, les gestes déplacés, etc., il y a une tolérance. Mais en même temps, dans ces mœurs, vous avez une frange que je considère personnellement comme plus sensible, plus, j'ose pas dire le mot cultivé, qui est composé par des juristes, par des magistrats, par des gens de culture, et qui vont interdire finalement, qui vont créer. Vous voyez, le droit vient s'imposer en quelque sorte sur les mœurs, et ils vont imposer par exemple le fait que il existe une violence qui est une violence faite de gestes apparemment non agressifs, mais s'adressant à un enfant qui n'est pas en mesure d'y résister. Et c'est une loi de 1832 qui crée donc le fait qu'il y a, au fond, une agressive... J'oublie le nom, c'est une agression sexuelle, c'est pas agression d'ailleurs, j'oublie le nom, hein, sur un enfant qui se fait sans violence, mais qui est condamnable parce qu'il s'agit d'un enfant.
Corruption.
Et là, on voit... Non, c'est pas corruption. Et donc là, on voit que, finalement, les mœurs sont surplombées par quelque chose qui est de l'ordre du droit. Mais... Vous avez ensuite, évidemment, le problème qui est lié au fait qu'une société machiste, ça impose des choses, et que le viol à l'égard des femmes n'est peut-être pas aussi grave qu'on pourrait l'imaginer, etc. Puis à nouveau, les mœurs vont pousser à quoi? À quelque chose qui est lors d'une sensibilité, cette fois collective. Une sensibilité qui porte sur l'intolérance. Sur l'intolérance à la domination. Et je crois que nous vivons ça très aujourd'hui. MeToo, c'est l'intolérance à la domination de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Donc cette intolérance à l'égard de la domination, ça va aboutir au procès d'Aix en 1978. C'est très tardif. Mais qui va, pour la première fois, condamner le viol comme étant un acte qui renvoie à une société qui a une certaine forme de domination masculine. Vous voyez, c'est le procès, c'est la fameuse plaidoirie de Gisèle Halimi. Donc, quand on voit à l'inverse par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est les mœurs qui vont pousser pour que finalement une décision s'impose et qu'une loi deviennent particulièrement implacables. Et je répète, je renvoie à ce que nous disions tout à l'heure, le combat entre mœurs et droit, c'est un combat compliqué, difficile, et là, actuellement, c'est les mœurs qui, à mes yeux, s'imposent dans le cadre du burkini. Et qui interdisent le fait que le droit peut intervenir.
Voilà, nous avons le temps encore de prendre une dernière série. Deux questions, une main s'est levée devant. Voilà, tendez le micro.
Bonsoir, merci pour vos interventions. J'espère que je vais réussir à exprimer. J'avais une question qui est une petite question d'ordre du droit. Je pense que l'un de vous quatre sera à même de me répondre. Je ne saisis pas bien cette loi qui interdit tout port de signes religieux dans l'espace public. Est-ce que la loi en question précisait exactement la nature de ces signes religieux? Vous avez évoqué la soutane. Le burkini est quand même... Enfin, où est la frontière? Les juifs ne doivent plus porter de kippa dans les rues. Voilà, je connais. Peut-être l'avez-vous expliqué en début d'intervention, et je m'excuse si vous l'aviez déjà...
Si on reprend le...
Attendez, un instant, on va...
Ah, je vous en prie,
Y a-t-il d'autres...
Excusez-moi.
Pas de souci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, oui, voilà, et puis ensuite, on reprendra... voilà, tout à fait sur ma gauche. Ouais, moi qui en ai des mains, j'ai pas vu lever derrière. Voilà.
Madame, ce que dit madame, ça me fait penser à Johnny Hallyday. Ça a dérangé personne. On lui demandait pas d'enlever sa croix. Je crois même au Stade de France, donc tout le monde le voyait et l'espace était semi-clos. Sinon, juste vis-à-vis de la beauté des corps, Monsieur Vigarello, je sais pas si c'est toujours en cours, mais à Rio, il y avait une plage où se retrouvaient, entre guillemets, les gens beaux. Enfin, où on disait que toutes les belles filles, elles étaient. Et c'était le poste numéro 9. Donc, tout le monde savait que les filles belles étaient concentrées sur cette plage-là, et strictement au poste 9. Donc, c'est la réunion des beaux corps.
Voilà, bon, non. On relève l'adresse. Alors, sur les signes... Voilà, sur les signes religieux, bon, c'est pas directement le thème de ce soir, enfin, comme la question a été abordée indirectement. Est-ce qu'il y a des souvenirs juridiques?
Les premiers arrêtés d'interdiction, je pense en particulier à celui du 5 août 2016 sur Villeneuve-Loubet. Le terme utilisé est le suivant, enfin les termes, la phrase. Une tenue de plage manifestant de manière ostentatoire une apparence religieuse, alors que la France, etc., etc., est de nature à créer des risques de troubles à l'ordre public. Bon, il se trouve que ces troubles n'ont pas été, à mes yeux en tout cas, avérés. Et manifester de manière ostentatoire une appartenance religieuse dans un espace public me paraît absolument pas condamnable. Ça relève de la loi de laïcité, ça a été magnifiquement inventé en 1905, il n'y a rien à dire à ce sujet.
Bon, si je peux me permettre, ça a même été inventé avant 1905, parce que c'est l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme,
bien sûr,
qui dit que l'expression de toutes les opinions, même religieuses, est autorisée, évidemment. Sauf si cette expression trouble l'ordre public. Donc ça remonte à août 1789.
Alors, oui, il y avait la loi sur les signes religieux de 84, non, je ne sais plus.
Non, 2005. Avec
Oui, mais... Sur les signes ostentatoires.
Oui, mais non, ça, mais c'est à l'école.
À l'école.
Oui, c'est le lieu.
C'est le lieu. C'est dans le cadre d'école.
Attention, j'évoquais tout à l'heure, c'est le problème du lieu. Et parfois, le lieu est très... Je reprends... Et parfois, le lieu est très compliqué, parce que regardez, autant sur l'école, on peut s'entendre, autant sur le sport, je laissais entendre, c'est plus complexe. Hein. Enfin, c'est pas le débat de ce soir, mais c'est plus complexe, et ça mérite vraiment une réflexion.
Voilà, eh bien, moins que Camille ait un mot à rajouter... Sur cette question, nous pouvons conclure ou nous arrêter. Il n'y a pas de conclusion forcément à apporter. Nous arrêter pour cette soirée et remercier les intervenants et à vous souhaiter un bon été. Il y aura donc en principe des mardis d'éthique publique qui reprennent l'année prochaine, début octobre, le premier mardi d'octobre en principe, vous pouvez déjà noter la date. Bien sûr, le thème vous sera communiqué en temps utile. Bonne soirée.